Vous écoutez France Culture.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
L'émission d'aujourd'hui pourrait s'appeler et reprendre le titre de la dernière livraison du numéro d'Esprit, celui daté de février 2015, après l'Union sacrée. Et oui, la revue Esprit d'ailleurs, à laquelle il faut rendre hommage, puisque c'est là que nous vous y avons lu pour la toute première fois, il y a maintenant 10 ans. Abdennour Bidar, un article qui, au fond, déjà évoquait les questions que nous nous posons aujourd'hui. Bonjour, Abdennour Bidar.
Bonjour.
Voici ce qu'écrit 10 ans plus tard dans son éditorial la revue Esprit. Après le 11 janvier, nos contradictions restent béantes. Bien que fermes sur nos principes, nous voyons mal comment sauver notre modèle d'intégration. L'ironie voltairienne ne constitue pas un projet collectif et la laïcité qui impose la neutralité de l'État et protège la liberté de conscience en même temps qu'elle garantit la liberté d'expression à propos de toutes les religions. Religion ne peut pas être invoquée pour reléguer la religion aux marges de la société. Reléguer, réformer, les mots sont aujourd'hui sur toutes les bouches. Celui de réformer, en tout cas, réformer l'islam, c'est une volonté politique qui émerge en ce moment, puisque jeudi dernier au Sénat, le Premier ministre a demandé à Bernard Cazeneuve, qui est aussi ministre des cultes, de lancer des consultations sur l'organisation du culte musulman, sans plus de précision pour l'instant sur les objectifs ou les personnes qui seraient consultées. Et lundi, après les fusillades de Copenhague, qui nous ont rappelé celle du 7 et 9 janvier à Paris, le Premier ministre Manuel Valls a parlé d'islamo-fascisme, déclenchant ainsi des quelques polémiques et des désaccords, et a appelé dans la foulée l'islam de France à prendre ses responsabilités. Alors pour vous, Abdennour Bidar, les formulations ne sont pas forcément les mêmes, mais ça ne fait aucun doute, le fait que ce soit au nom de l'islam que la barbarie de Daesh, des terroristes de Paris et de Copenhague aient choisi de voler, doit pousser l'islam à se réformer. Vous êtes philosophe, Abdennour Bidar, spécialiste des évolutions de l'islam, chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au ministère de l'Éducation, et puis vous animez aussi l'émission Culture d'Islam sur France Culture, succédant ainsi à Abdelwahab Medeb, dont on apprenait la triste disparition le 6 novembre dernier. Tiens, on va d'ailleurs lui dédier l'émission de là où il
Très
nous
volontiers.
Écoute, Abdelwahab Medeb. Vous avez écrit en octobre, une lettre ouverte au monde musulman, lettre qui a depuis beaucoup circulé. Dans cette lettre, vous appelez le monde musulman à se remettre en question, à reconnaître que puisque la barbarie est née de son propre ventre, il doit se réformer. Mais des voix contraires se font entendre. Nous verrons avec Brice Couturier tout à l'heure aussi où se situe la polémique. Et vous voici revenir avec ce livre, Plaidoyer pour la fraternité, ou comme projet, allez pour le résumer d'un coup, mais après tout, je vous cite, vous dites qu'il faut l'inverser, la devise républicaine, et désormais la faire commencer par fraternité, liberté, égalité. Abdennour Bidar.
Il ne s'agit pas forcément de la réformer et de la renverser au sens littéral, mais de comprendre toute la force d'inspiration ou toute la puissance d'inspiration de la fraternité pour la liberté et pour l'égalité. Parce que si on n'a pas le souci de l'autre, c'est-à-dire si justement on n'a pas développé soi-même une culture de la fraternité, à quel point est-ce qu'on peut se préoccuper de la liberté d'autrui ? Et à quel point est-ce qu'on peut se préoccuper de l'égalité entre les libertés ? Je crois que s'il n'y a pas la fraternité, la liberté et l'égalité sont quelque chose que l'individu va revendiquer surtout pour lui-même. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à une vision, à une perception et à une revendication individualiste de liberté et d'égalité.
Et vous pensez qu'on l'a un peu oublié, vous citez au début de votre livre Régis Debré, dans le moment Fraternité, qui évoquait d'ailleurs cette question il n'y a pas si longtemps au matin de France Culture, hein, une évasive fraternité continue d'orner nos frontons, mais, poursuit Régis Debré, dans la sainte devise de nos pères, la petite dernière est devenue orpheline.
C'est même pas qu'on l'a oublié, c'est qu'elle n'est pas sortie du carton. Hein, c'est-à-dire qu'on a, encore jamais osé s'en servir. Je pense que c'est une question d'audace. C'est-à-dire qu'elle est toujours apparue comme une espèce d'idéal de fronton. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui était trop utopique, trop idéaliste, peut-être trop naïf aussi. Hein, on n'ose pas souvent parler de fraternité et émettre l'idée que la fraternité pourrait être une politique et pourrait engendrer une véritable culture commune, une véritable culture publique. Hein. Et donc on l'a laissé en friche parce que, d'une certaine façon, on était d'avance un petit peu dépassé par l'ambition qu'elle nous indique. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle, de toute évidence, mais cette évidence est arrivée pour tout le monde au moment des événements de janvier, de toute évidence, les fractures sociales et culturelles, hein, dans notre société sont tellement importantes qu'on a besoin de tous les renforts de valeurs, d'idéaux, et me semble-t-il, en particulier maintenant, ici et maintenant, dans cette situation, parce qu'elle est trop grave, de la fraternité.
Bon, mais Abdennour Bidar, est-ce que la fraternité, ça fait une politique ? Est-ce que ça fait une politique de la ville? Est-ce que ça fait une politique économique? Est-ce que ça fait une politique de l'intégration? Est-ce que ça défend, je ne sais, les valeurs de la laïcité?
Bah, je vais vous donner un exemple très
simple. Est-ce que ça fait le job, pour parler trivialement, la fraternité?
Ça fait le job parce que déjà, ça fait une politique de l'éducation. Et je parle aussi bien de l'éducation qui est donnée par l'école que l'éducation qui est donnée par les familles. Commençons par ce qui se passe dans les familles. Dans combien de familles aujourd'hui est-ce qu'il y a une culture de la fraternité? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans une famille musulmane au sujet des petits juifs ou des petits chrétiens? Qu'est-ce qu'on dit dans une famille juive, des petits musulmans et des petits chrétiens? Qu'est-ce qu'on dit dans une famille blanche, des petits noirs, etc., etc.
Bah, dans une famille musulmane, on peut dire à des musulmans qu'il existe un mouvement qui s'appelle les frères musulmans, fraternité, frères.
Oui, alors tout le défi justement aujourd'hui, c'est de penser la fraternité au-delà des frontières culturelles, au-delà des frontières communautaires, au-delà des frontières d'appartenance, c'est-à-dire au-delà des identités particulières. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, et c'est ce que j'appelle une culture de la fraternité, qui doit, à mon avis, commencer dès l'éducation qui est donnée par les familles, c'est qu'on enseigne à tous les enfants qu'on est frères humains, avant d'être frère d'appartenance à tel sang, à telle identité, à telle ethnie, à telle communauté de croyance. Et c'est la même chose pour l'école. Là aussi, il y a une politique. Hein, vous savez que l'école va mettre en place à partir de 2015 ce qu'on appelle au ministère de l'Éducation nationale, qui est mon employeur, un nouvel enseignement moral et civique. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cet enseignement moral et civique? Il y a là aussi une culture de la fraternité à transmettre, c'est-à-dire apprendre justement à se... C'est très simple, hein, à se soucier d'autrui, à avoir vis-à-vis d'autrui ne serait-ce qu'une démarche ou une attitude de reconnaissance de ce qu'il est, dans sa différence, dans sa singularité, dans sa particularité, etc. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose de très concret.
Et si l'autrui ne se soucie pas de vous ?
Il est évident que ça pourra marcher si c'est réciproque. C'est pour cela que ça doit faire l'objet d'une politique, justement. C'est-à-dire que si certains individus dans notre société prennent l'initiative de la fraternité au milieu d'une société qui n'est pas fraternelle, parce que toutes les forces vives, à commencer par les politiques publiques, n'instituent pas quelque chose comme une culture de la fraternité, et évidemment, le naïf sera le dindon de la farce. Hein, c'est-à-dire qu'il rencontrera en face de lui une société qui continuera d'être plus ou moins hostile, plus ou moins indifférente. Et à partir de là, la fraternité restera un vœu pieux.
Je vous propose d'écouter le Premier ministre qui était chez nos confrères hier, de chez RTL, au micro de Philippe Corbet, et qui appelait, c'est une nouvelle fois, comme on l'a entendu après notamment les événements du 7 janvier, Abdelhan Bidar, qui appelait l'islam de France à prendre ses responsabilités.
Pour combattre cet islamo-fascisme, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer, l'unité doit être notre force, je le rappelais. Mais il faut en même temps poser tous les problèmes. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est faire en sorte qu'il y ait un débat au sein de l'islam pour combattre ceux qui agissent au nom de cet islam dévoyé. Donc, il faut, oui, former autrement les imams, refuser ces imams qui nous viennent de l'étranger. Mais je pense qu'il faut désormais une rupture. Il faut que l'islam de France assume, prenne totalement ses responsabilités. C'est ce que demande d'ailleurs l'immense majorité de nos compatriotes musulmans qui n'en peuvent plus eux aussi d'être non seulement la cible d'attaques qui sont elles-mêmes insupportables, mais d'être confondus avec cette terreur.
Abdelnour Bidar, certains ne sont pas d'accord nécessairement avec ce que dit le Premier ministre. On a pu voir, et même sans les événements que l'on sait, le 14 septembre dernier, après l'assassinat par l'État islamique de David Haines, de jeunes musulmans britanniques de la fondation Active Change, qui disait, qui avait lancé la campagne du « Not in my name », ne voulant pas du tout qu'on assimile après tout des actes terroristes avec une religion, quelle qu'elle soit, en l'occurrence là, l'islam.
Alors je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Mais avant même de les distinguer, je voulais dire que je ne suis pas fan des nouveaux concepts du style islamo-fascisme.
Oui, alors ça aussi, ça a fait tout de suite bondir.
Voilà. Soyons prudents avec tout ce
vous
qui...
Vous ne les employez pas, vous.
Non, je ne les emploie pas. Je suis très prudent avec ce genre de mots que je trouve un peu hasardeux. Mais bon. Néanmoins, je suis d'accord avec le fond de ce que dit Manuel Valls, c'est-à-dire la question de la responsabilité, à condition donc de distinguer deux choses. La responsabilisation et l'accusation. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'accuser l'islam et d'accuser les musulmans pour l'égarement meurtrier, terroriste, tragique de quelques-uns de ces enfants perdus. En revanche, si on n'accuse pas l'islam, on est bien obligé de le responsabiliser, c'est-à-dire de voir que ces dérives mortelles, que ces dérives tragiques, pas seulement ce qui s'est passé en France, mais ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman avec Daesh, avec Boko Haram, etc., eh bien, naît sur le terreau d'une civilisation qui est profondément en crise. Ce dont ont témoigné, par exemple, encore de façon très spectaculaire, les printemps arabes et leur suite un petit peu chaotique. C'est-à-dire que le monde musulman aujourd'hui est en effervescence. Manifestement, il est en train de se chercher. Et il est tiraillé par des tensions complètement contradictoires entre une tentation régressive vers des néo-fondamentalismes, vers des conservatismes, des traditionalismes, etc. Et puis des aspirations modernistes extrêmement fortes. Donc, l'appeler à la responsabilité, c'est simplement rencontrer quelque chose qui se cherche en lui-même et qui est de l'ordre de ce que vous avez appelé au départ une réforme. Vous l'avez dit, moi je suis sur cette ligne-là depuis plus de 10 ans, puisque mon article dans Esprit a été publié en 2003. Et c'était déjà une lettre.
2003, pardon, j'ai dit 2003. Ouais. 2003 là,
je dois avoir la manie des lettres, hein, comme Herzog, le héros de Sol Bello.
Je dois l'avoir même celui-là dans Madoc.
Voilà, donc moi j'écris des lettres, et déjà en 2003, j'écrivais la lettre d'un musulman européen pour appeler le monde musulman justement à se responsabiliser et à se choisir un destin autonome dans la modernité. Parce que c'est ça la grande question qui est derrière. C'est-à-dire qu'on a une civilisation qui est en crise parce que depuis qu'elle a reçu le choc de la modernité occidentale, en plus ce qui s'est passé c'est qu'elle l'a reçu d'une façon extrêmement violente, extrêmement invasive par la colonisation, eh bien elle a du mal à se remettre. Donc elle a à peu près tout essayé pour se situer elle-même dans cette modernité et pour l'instant, eh bien, elle est toujours en chantier, elle est toujours en transition.
Alors sur ce thème-là, justement, je vous propose d'écouter plusieurs témoignages. D'abord, celui de Dalil Boubaker, dont vous savez qu'il est président du Conseil français du culte musulman, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il a expliqué à Antoine Beauchamp que, tout d'abord, il fallait bien voir que les tenants de l'islam modéré ou réformiste souffrent du silence dans lequel les enferment les partisans d'un islam radical qui a plus facilement pignon sur rue. Dalil Boubaker au micro d'Antoine Beauchamp.
Je vois à la télévision, par exemple, ne faire paraître dans cet instrument que des gens quasiment partisans d'un fondamentalisme. C'est eux qu'on écoute, parce que l'islam et sa fonction tribunicienne ne donnent la parole qu'aux démagogues et aux gens qui flattent les foules par un discours plutôt politique ou intégriste. Alors que les modérés, pas du tout, on les voit jamais. Jamais, c'est pas du tout la politique depuis des années de faire parler les gens d'un islam, ou alors dans des cénacles tellement fermés qu'ils sont inaudibles, donc rendre audibles véritablement les tenants de ce que nous appelons chez les musulmans l'islam. L'islam, c'est le réformisme musulman qui, depuis le Kawakibi, depuis le 19e siècle, donc à ses partisans, ses savants, ses écrits, ses sommités, mais qui ont toujours été balayés par les partisans de l'islam ou politique, ou fondamentaliste, ou wahhabiste. Enfin, les dénominations de l'islam en matière, n'est-ce pas, de tolérance ou d'intolérance se multiplient à l'infini.
Voilà, du coup, le temps presse. Il faut passer très vite à la raison. Dalil Boubaker avec Antoine Beauchamp.
C'est pas les savants fussent-ils des connaisseurs de l'islam ou des théoriciens de l'islam qui vont changer quoi que ce soit aux communautés musulmanes. C'est les communautés par elles-mêmes, elles feront elles-mêmes l'effort de ce changement. Un État religieux n'est jamais un État démocratique, parce que la religion, c'est l'antithèse de la démocratie. Donc c'est de là, de la base, de la prise de conscience, vraiment, dans la chair et dans la volonté de s'en sortir de cet état religieux, je dirais, comme Auguste Comte, qu'il faut passer de l'état théologique à l'état positiviste, à la raison, parce que la religion n'est pas la solution de tous les problèmes de la vie. La religion a sa place, oui, je crois, je suis croyant, mais enfin, je vais pas en faire la confiture de fraises.
On va pas en faire la confiture de fraises, c'est pourtant l'heure du petit déjeuner, monsieur Boubaker. Abdelon Bidar.
Oui, alors il y a un petit peu à boire et à manger dans ce que dit Dalil Boubaker. Dire que la religion est l'antithèse de la démocratie, moi je trouve que c'est une proposition à la fois générale, hasardeuse et largement fausse. Hein, je crois que justement le génie de la laïcité, par exemple en France, c'est d'organiser démocratiquement la coexistence pacifique entre les religions et puis au-delà des religions,
oui, contrairement à ce qu'on a dit
entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas.
Ce ne sont pas de les nier, mais au contraire de les organiser pour qu'ils expriment et vivent librement.
Bien sûr. Alors après, sur la question du réformisme musulman, j'entends beaucoup beaucoup parlé actuellement de la formation des imams. Je vois qu'on s'adresse encore à Dalil Boubaker, qui a été pendant longtemps le président du Conseil français du culte musulman. Je crois qu'une erreur fondamentale serait de penser qu'on va aider les musulmans simplement en formant les clercs, les gardiens du culte. Je le dis souvent, je l'ai encore dit dans une tribune pour Marianne la semaine dernière, les musulmans ne sont pas un troupeau gardé par des bergers, qu'il faudrait faire garder par des bergers, par des gardiens du culte en l'occurrence, même si ces gardiens du culte sont ouverts, même si ce sont des clercs éclairés. L'islam a aussi besoin aujourd'hui d'intellectuels. L'islam a aussi besoin aujourd'hui d'une alternative au discours religieux, même si ce discours religieux est éclairé. J'en prends pour preuve, par exemple, le texte que le Conseil français du culte musulman a fait publier en juin 2014. C'est un texte, justement, qui émane d'une représentation du culte qui se veut éclairée, mais qui continue d'affirmer, néanmoins, que l'islam a, au-delà de ses adaptations marginales, est fondé sur une doctrine unique. Donc en réalité, à chaque fois qu'on s'adresse aux représentants du culte, on retombera sur ce problème d'une doctrine unique, c'est-à-dire d'un dogme qui est intouchable. Et ben moi, en tant que philosophe critique de l'islam, en tant que penseur libre de l'islam, je pense que non, au contraire, justement, il faut donner à la liberté de chaque musulman le droit de se positionner, y compris par rapport à ce dogme fondamental. Donc je ne crois pas que...
Et peut-être leur donner à certains le droit, comme aux catholiques, je veux dire, fait d'être athée.
Mais bien entendu. Mais ça jamais... C'est quand même le... Tout à fait. Ça, jamais un gardien du culte ne vous l'accordera. Donc on a besoin, effectivement, aujourd'hui, que les musulmans soient aidés par la puissance publique, mais on ne pourra pas le faire en s'adressant à des gardiens du culte qui, eux, n'admettront jamais ce genre de possibilité.
Sauf que parfois, la puissance publique, elle est aussi, ou souvent, montrée du doigt. Il y a ceux qui montrent du doigt les faillites de l'islam ou de la formation des clercs quant à l'islam, mais il y a l'autre famille d'idées qui, elle, pointe du doigt la société française, l'histoire de la colonisation. Vous connaissez les affrontements entre les uns et les autres, d'où les avons d'ailleurs ici tous représentés au matin, de Caroline Fourest à Edoui Plenel. Je voudrais vous faire écouter le témoignage de Abdelrahman Azouzi, urologue au CHU d'Angers, membre du conseil municipal de la ville d'Angers, qui a décidé de mettre fin au mandat qu'il occupait depuis 2008, se disant ne plus se reconnaître dans les valeurs républicaines de nos gouvernants, et il évoque ainsi son retrait de la vie politique locale française au micro de Ambre Rousseau. Pardon.
L'État français porte une responsabilité principale dans la dégradation de l'image de ce que sont les musulmans en France. Ça, c'est le fruit d'une politique voulue de l'État français. Il n'y a pas de complot là-dedans. Il y a juste une genèse issue de la vision coloniale de l'État français, telle qu'il l'appliquait dans son empire. Mon père est né indigène. Mon grand-père est né et mort indigène. Et donc, citoyens seconde zone qui vivaient dans l'Empire français étaient des musulmans et vus comme des citoyens seconde zone puisqu'il y avait le code de l'indigénat. Lorsque nous, comme nous sommes nés en France, les hommes politiques qui, dans les années 60, 70, les hommes politiques qui nous ont vus naître étaient les mêmes hommes politiques qui avaient géré les colonies. Donc voyez-vous, on ne se refait pas en un jour. Et donc cette politique-là, en fait, elle a perduré dans le temps. Ce qui fait que le citoyen français de confession musulmane, à ce jour, n'a jamais été considéré comme un citoyen à part entière.
Voilà, et Abdelrahman Azouzi enfonce le clou, notamment, et redit pourquoi demander du coup des comptes aux musulmans. Écoutez-le au micro d'Ambre Philouze Rousseau des Matins de France Culture.
Expliquez-moi pourquoi on va faire intervenir des États étrangers. C'est contraire même à l'esprit même de la laïcité. Comment comprendre que l'État français, dans le cadre de la laïcité, dont il nous parle à longueur de temps, notamment quand il s'agit des musulmans, dise « Moi, État français, je m'interdis d'empiéter sur la sphère religieuse, mais par contre, j'accepte que l'État algérien, marocain et turc, eux, viennent mettre les deux pieds dans le plat dans le territoire français. » C'est la volonté de l'État français, de manière à ce qu'il n'y ait jamais d'islam de France. Alors moi, je vous dis dans ces conditions, lorsqu'il y a des troubles liés à la communauté musulmane, comme les attentats du 7 ou 9, il faut qu'ils demandent des comptes, pas aux musulmans de France, qui n'y sont absolument pour rien, mais il faut qu'ils demandent des comptes à ces États-là et qu'ils prennent la responsabilité eux-mêmes de la politique qu'ils ont faite. Si vous empêchez les musulmans de France de s'organiser, ne leur demandez aucun compte à ce moment-là.
Voilà, Abdelrahman Azouzi. Autant d'éléments, Abdelrahman Azouzi, pour le débat, deuxième partie, un tout petit mot tout de même, évidemment.
Oui, deux petites choses. Je suis d'accord avec lui pour l'ingérence. Par contre, pour la vision coloniale, je crois que le problème de ce monsieur, c'est qu'il pense que l'histoire est immobile. Hein, c'est-à-dire qu'on continue comme à l'époque de la colonisation et on traiterait les musulmans aujourd'hui comme des indigènes de l'intérieur, mais il y a eu les indépendances, il y a eu du temps qui est passé.
On y revient dans un quart d'heure, la deuxième partie introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. Oui, d'un côté la fermeture sur soi d'une communauté plus ou moins tentée par l'islamisme et de l'autre votre self-islam à vous qui prétend contribuer à un universalisme pour le 21e siècle et qui s'apparente en réalité à du protestantisme musulman. Et la majorité silencieuse, les musulmans d'Europe, de quel côté va-t-elle pencher ? Vers le plus menaçant ou vers le plus séduisant ?
Voilà, ce sera dans un quart d'heure, nous aurons une demi-heure pour débattre de tout cela avec vous. Abdelnour Bidar, je rappelle que vous publiez Plaidoyer pour la fraternité chez Albin Michel et que ça sort d'ailleurs aujourd'hui en... c'est bien aujourd'hui, hein, ça sort aujourd'hui.
Demain,
en librairie.